Monsieur Delettre.
Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, Madame le maire, vous allez voir comme nos points de vue se rapprochent, y compris jusqu'aux illustrations que vous avez relevées. Je confirme, la situation est grave. Bien entendu, il est question de nous prononcer sur cette augmentation d'impôts. Mais est-ce vraiment là la question ? N'est-ce pas considérer l'iceberg au travers de sa seule partie émergente ? Avant de savoir si nous sommes d'accord ou non, pourrions-nous savoir comment nous en sommes arrivés à cette demande ? Qui nous l'adresse ? Et pourquoi faire ? Et avec quelle garantie qu'il en sera fait bon usage ? Mon fils vient me voir, me demande de l'argent. Il n'en a plus. Il reçoit déjà de l'argent de poche. Il y a quelques jours, c'était son anniversaire, et mamie l'a gâté. Alors bien sûr, je m'interroge, naturellement, sur ce besoin. Je lui demande ce qu'il a fait de son argent de poche. Je me demande s'il est bien raisonnable de lui donner un complément sur ce qu'il compte en faire. Et nous ne parlons là que de quelques euros et de mon argent. Il est ici question de millions d'euros qui ne sont pas les nôtres. Alors nous envisagerions de répondre oui ou non, sans nous être posé les questions qui nous sembleraient les plus évidentes dans le cadre domestique. Autrement dit, nous serions vigilants pour quelques euros nous appartenant, mais totalement négligents pour des millions d'euros parce que ce ne sont pas les nôtres. Si nous faisions cela, mesdames et messieurs, nous serions des irresponsables. Et nous mériterions de fait l'opprobre de nos concitoyens. Parce que nous ne nous y trompons pas. Que vont-ils penser lorsqu'ils vont apprendre cette augmentation ? Et voilà, on nous avait promis. Et sitôt élus, on oublie. Tous les mêmes, ces élus, rien à faire de l'intérêt collectif. Ce sont leurs intérêts personnels, être au pouvoir, voilà tout ce qui les intéresse. Je te le dis, à quoi cela sert-il d'aller voter ? Pas un pour rattraper l'autre, et je vous passe les noms d'oiseaux. Croyez-vous, mesdames et messieurs les conseillères, les conseillers municipaux, qu'ils feront la distinction entre la municipalité et la com d'agglo ? Croyez-vous qu'ils feront la différence, madame le maire, entre nous, les élus municipaux, ceux de la com d'agglo et son président ? Bien sûr que non. La com d'agglo, mais la plupart de nos concitoyens ne savent pas ce que c'est, ne connaissent pas ses compétences, ne savent même pas où elle se trouve. C'est nous tous qui allons subir la colère des habitants, tout le monde dans le même panier. Et comment pourrait-on en vouloir à nos concitoyens ? C'est notre honorabilité, madame le maire, qui va être atteinte du fait de ces dérives, de ces irresponsabilités que nous avons pourtant depuis longtemps dénoncé. Eh bien moi, voyez-vous, je n'ai pas envie de souffrir de quelque façon que ce soit l'impéritie des autres élus. Il importera, madame le maire, pour vous, mais aussi pour chacun d'entre nous, que vous expliquiez clairement la situation à nos concitoyens, que vous distribuiez clairement les responsabilités, au pas tant pour montrer du doigt que pour protéger celles et ceux qui n'y sont pour rien. Nous l'avons entendu récemment en commission pour le plan Action Cœur de Ville. La com d'agglo ne pourra pas tenir ses engagements. Pour notre centre-ville, c'est un dossier sur lequel vous, nous, sommes attendus et qui va avancer moins vite que prévu. C'est à nous, bien entendu, que l'on va demander des comptes et plus particulièrement même, sans doute, à vous, Corinne, et à moi, compte tenu des fonctions que nous occupons sur ce dossier. Et nous devrions rester les bras croisés devant cette injustice, subir les foudres, les conséquences d'impéritie que nous n'avons cessé de dénoncer. Il faudra, madame le maire, protéger ce conseil municipal, protéger les élus en étant la plus explicite possible sur le partage des responsabilités. Pour ma part, non, non, non et non. Je refuse d'être assimilé à ces dérives, moi qui les ai tant dénoncées et à qui on a tant reproché de le faire. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir qui. Et je veux que cela s'explique publiquement et de façon contradictoire. Comment pourrait-on me le refuser ? Est-ce insultant que de le demander ? Monsieur Correa déclarait, pas plus tard que le 27 février 2021, dans les colonnes de La Montagne, « Les élus ne peuvent pas être choqués que le président de l'agglomération veille à la santé financière de la collectivité. » Les élections sont à peine closes. Je dois reprendre quelques engagements. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin. Dans le document de campagne distribué par la liste Guéret 2020, nous ne voulons plus que l'impôt écrase nos concitoyens, que la ville se vide progressivement de ses habitants. Il fait le lien entre le montant des impôts et la ville qui se vide de ses habitants. Juste au-dessus, le temps est venu de passer des discours aux actes. Les Guérétois ne veulent plus entendre de promesses vaines et contradictoires, voir partir les commerces et les services publics. Un peu plus loin, même document. Nous devrons informer les habitants et communiquer régulièrement sur les projets et réalisations. Eh bien, nous attendrons cette communication. Lettre de l'Aglo, printemps 2019, édito de M. Correa. Nous avons assumé toutes ces compétences et avons même choisi d'en prendre d'autres qui ne nous étaient pas imposées. Mais quand on n'a pas les moyens d'exercer les compétences qui nous reviennent obligatoirement, est-il bien prudent de s'engager dans des compétences supplémentaires ? Ah, sans doute est-il intéressant de s'en targuer. Mais il faut ensuite avoir les capacités d'en assumer les conséquences. Le service public passe par cette capacité à assumer des missions nouvelles. Ah oui, non, nous prenons là nos responsabilités en sachant qu'en outre, cette année encore, tout ceci est assumé sans augmenter l'imposition locale. Oui, effectivement, il est assez maladroit l'année qui précède les élections, d'augmenter les impôts. Automne 2019, lettre du Grand Guéret, édito de M. Correa. Vous parliez de la citation de M. Mendès France. Eh bien, M. Correa l'a fait sienne. Il est temps de cesser les propos irresponsables et les revirements. Il l'écrit. Gouverner, c'est prévoir. C'est aussi assumer. Chacun devrait s'en souvenir. Eh bien, je m'en souviens. Je rappelle aussi qu'à l'occasion d'une interview donnée dans les locaux de France Bleu à la fin du mois d'août 2019, sur le bilan du festival Check-in Party, M. Correa déclarait « Les réussites sont collectives, les échecs sont personnels. » Quels sont les faits ? Une communauté d'agglomération exsangue, mais ce n'est pas tout, parce qu'encore pourrait-il y avoir en face de cette situation financière un centre aqualudique, une maison de santé, un pôle intermodal ? Mais non, il n'y a rien, rien d'autre qu'une quincaillerie qui soit sortie de terre ces 6 dernières années. Et pas plus pour les années qui viennent. C'est-à-dire que le mandat sur 12 ans sera identique. Une situation financière dont la forte dégradation débute en 2018 et pour laquelle absolument rien n'a été engagé depuis pour la corriger. Pire même au printemps 2019, comme je viens de le rappeler, le président se targuait de prendre à sa charge plus de compétences. Alors à la fin, pour 2018-2019, on a pioché dans une fameuse cagnotte une cagnotte en matière de comptabilité. Mais les comptables doivent se rouler par terre. Pour couvrir les déficits de 2018 et 2019, bien sûr, il a fallu rembourser l'argent dans lequel on avait indûment puisé, ce qui nous a conduit à cet hallucinant ratio de 40 annuités pour rembourser la dette. Un ratio présenté d'ailleurs à l'occasion du débat sur le ROB fin juillet 2019 à 12 années. L'erreur a été entendue. Croyez-vous qu'elle eût été corrigée ? Non, c'est toujours ce ratio qui figure dans les documents qui sont publiés par la communauté d'agglomération. Même cause, mêmes effets. Et nous voilà en 2021 avec, bien sûr, même si ces données sont provisoires, 3 millions d'euros d'ennemis qui nous manquent pour boucler ce budget. On peut considérer à peu près que tous les ans, nous avons un déficit de fonctionnement aux alentours d'1,5 million d'euros. Voilà. Gouverner, c'est prévoir. On en est loin. En 2020, la réalité de cette situation a été maintes fois dénoncée, aussi souvent niée. Pourtant, dans le même temps, et depuis, toute une série d'explications nous ont été présentées. Il est quand même assez étonnant de fournir des explications à une situation qui est censée ne pas exister. On marche sur la tête. D'autant que chacune de ces explications est erronée, et parfois même grotesque. Là aussi, étonnant de les voir défiler les unes après les autres. Mais elles font la plupart du temps appel à des mécanismes comptables difficiles à cerner pour la plupart. Il s'agit ici de faire vilain usage de ce qu'en économie on appelle des asymétries d'information. On est loin, très loin, de la transparence déclarée. Je reviens rapidement sur les différentes explications qui nous ont été données. Les fameux budgets zone d'activité. Un changement d'enregistrement comptable. Mais la somme d'argent, elle, n'est en rien modifiée. Lorsque vous retirez 100 euros de votre compte chèque pour les transformer en billets qui viennent dans votre poche, vous avez toujours 100 euros. La poche n'est pas la même, mais on a toujours 100 euros. On nous a parlé des subventions qui rentrent tardivement. Mais voyez-vous, en comptabilité, on fonctionne sous forme de balance. D'un côté, on enregistre les dépenses, de l'autre, on enregistre les recettes. Et les subventions, à partir du moment où elles sont actées, on les met du côté des recettes. Les subventions à revenir, on les met sur cette étagère. Les subventions qui rentrent, on les met sur celle-là. Mais moi, lorsque je range un kilo de farine, que je la pose sur cette étagère-là ou sur celle-là, ça pèse toujours un kilo. On nous a parlé des baisses de dotation. La dégradation rapide de la situation commence en 2018. La baisse des dotations s'arrête en 2017. Et comme vous le rappeliez, Madame le maire, toutes les collectivités ont à subir ces baisses de dotation. Elles ne s'en sortent pas aussi mal. Plus récemment, on a vu sortir l'explication de l'affaire Terrali. Terrali, qu'est-ce que c'est ? Un contrat de crédit bail. Un contrat de crédit bail, pour expliquer à tout le monde, c'est un contrat de location un peu particulier. Alors, Terrali dépose le bilan, une autre société reprend le contrat de crédit bail. Mais vous êtes propriétaire d'un appartement. Vous avez un locataire qui met un terme à son contrat. Vous en retrouvez un autre. Est-ce qu'entre-temps, vous avez perdu des années de loyer ? Mais bien sûr que non. Alors le mécanisme est un peu complexe sur le plan comptable parce qu'il y avait une clause pénale. Il faut l'enregistrer. Puis la clause pénale, évidemment, ne peut pas être réalisée puisque la société est en dépôt de bilan. Mais au début, vous avez un contrat de crédit bail et à la fin, vous avez un contrat de crédit bail. Tout ce qui change, c'est le créancier. Et on voudrait nous expliquer que ça explique une partie du déficit pour quelque chose qui serait de l'ordre d'1,5 million d'euros. Mais de qui se moque ? Plus récemment, on nous a parlé de la fameuse fiscalité économique. Il y a eu un article consacré à ce sujet dans La Montagne. Et alors là, c'est particulièrement pervers. Parce que, bien sûr, au sens strict du terme, On peut considérer aujourd'hui que la fiscalité économique coûte à l'agglomération. Mais quand on fait référence à ce dossier, on fait en fait référence à la réforme de la taxe professionnelle voulue par Sarkozy pour réduire la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Alors quand on engage une réforme fiscale, il y a tout un ensemble d'impôts qui sont modifiés. Le législateur est parfaitement conscient de ce que certaines collectivités vont bénéficier de cette réforme, d'autres, au contraire, vont supporter les conséquences. Il y a donc tout un ensemble de mécanismes qui sont mis en place pour rééquilibrer les choses. Ce qu'oublie de nous dire M. Correa dans la présentation de cette histoire de fiscalité économique, c'est qu'à l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle, eh bien, les EPCI ont pu percevoir la part départementale de la taxe d'habitation. Et que si, en réalité, on inclut dans son raisonnement l'ensemble des modifications, non seulement la communauté d'agglomération n'est pas perdante, mais elle y gagne. Mais qui parmi nous va aller rechercher l'intégralité des éléments de cette réforme? Qui parmi nous va aller rechercher les chiffres qui aujourd'hui correspondent à l'intégralité de cette réforme pour en faire le bilan exact? Qui? Personne. Enfin, presque personne. On nous parle plus récemment du Covid dans des documents sur la préparation du budget qui vous ont été distribués. Et là aussi, étonnamment, on nous explique qu'à l'occasion de la crise du Covid, il y a eu des dépenses supplémentaires. J'entends bien, dans toutes les collectivités, il y a eu des dépenses supplémentaires. Mais comme par hasard, on oublie de chiffrer les économies qui ont été réalisées. Parce que lorsque les salariés ne viennent plus travailler, on consomme moins d'électricité. En mars, on chauffe. On consomme moins d'électricité, moins de consommables, plus de déplacements en véhicule, plus de carburant, plus d'entretien. Où est le chiffrage de ces économies? Voilà encore une fois la crise du Covid convoquée pour expliquer les impéries de cette communauté d'agglomération. On se souvient de la manière dont elle avait été convoquée pour expliquer le non-renouvellement de l'édition du festival Check-in Party 2020. Finalement, à la fin de toutes ces explications, qui sont toutes plus erronées les unes que les autres, eh bien, nous ne savons toujours pas pourquoi nous en sommes là. Enfin, plus exactement, si, nous le savons. Mais la déclaration officielle n'a toujours pas été faite. Le président ne nous a toujours pas dit pourquoi les budgets sont, de fait, systématiquement en déficit. Où est passé l'argent ? Nous le savons, mais vous refusez de le reconnaître. Gouverner, c'est aussi assumer. On en est loin. Alors j'ai entendu parler d'acharnement. Mais qui s'acharne à se payer notre tête, à se payer celle des électeurs? J'ai entendu parler d'attaque ad nominem. Mais à ma connaissance, il n'y a qu'un seul et même individu derrière tout cela. Vous parliez de relation de confiance qui est rompue. J'irai plus loin. Aujourd'hui, nous sommes dans une relation de défiance. Tous les propos qui sont tenus, toutes les affirmations qui nous sont faites par le président de la communauté d'agglomération sont sujets à suspicion. Il faut tout vérifier, tout mettre en doute. Alors, je poserai... Vous parliez de conditions, Madame le maire. Je pense qu'on doit aller au-delà, à mon avis, pour commencer à discuter. Pour ma part, j'exige 4 choses. Non pas des conditions, mais des préalables. Et une fois que ces préalables seront remplis, on commencera à discuter. Premier préalable, je le dirai sans détour, c'est la démission de M. Correa de ses fonctions de président de la communauté d'agglomération. Et je suis heureux, Madame le maire, de vous avoir entendu dire qu'il n'est nullement question de le remplacer par un membre de la majorité municipale. Je suis en effet convaincu que nous pouvons trouver, parmi les maires des petites communes, des personnes, un homme, une femme, qui ont l'expérience et la compétence pour exercer ses fonctions et avec laquelle ou lequel nous pourrons repartir sur des relations constructives de confiance. Premier préalable. Deuxième préalable, que nous ayons des explications publiques et contradictoires sur les causes réelles de cette situation, mais aussi sur ses conséquences pour l'agglo en général et pour la ville de Guéret en particulier. Troisième condition, que nous soit présenté un plan précis de redressement de la situation financière. À mettre en relation avec mon premier préalable, parce que à aucun moment je n'envisage de faire confiance à un plan qui nous serait présenté par M. Correa. Les engagements, il en a déjà pris, nous voyons où nous en sommes. Et puis, souvenez-vous, ce fameux rapport de la Chambre régionale des comptes, dont on nous a expliqué pendant la campagne qu'il avait été sollicité d'un simple coup de téléphone par Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, qui, dans son souci de bonne gestion, voulait à l'époque s'assurer de la faisabilité financière du parc aqualudique. À l'époque, la communauté d'agglomération n'est pas dans une situation financière particulièrement délicate. Elle l'est manifestement aujourd'hui. Je pose donc comme préalable que la communauté d'agglomération convoque à nouveau un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Pourquoi est-ce que ce qui a été demandé, alors que ça n'était manifestement pas aussi utile que ça en 2014, ne le serait pas aujourd'hui, alors qu'il y a urgence à mettre de l'ordre dans tout cela? J'en ai terminé, Madame le maire.
Merci, Monsieur Delettre. D'autres interventions? Madame Bourdier.
Merci. Voilà, donc, l'an dernier, à quelques semaines près, nous avons défendu, dans nos écrits de campagne, notre vision sur la gouvernance que nous souhaitions pour notre ville. Et bien sûr pour l'agglo, qui nous rassemble avec 24 autres communes avoisinantes. C'était l'an dernier, je cite. Guéret en commun, nos projets ont tous un point commun, des coûts maîtrisés pour un véritable intérêt général, avec des partenariats divers à solliciter, agglo, département, région, État, voire Europe. Nous interviendrons dans le même état d'esprit au sein de l'agglo, où nous jouerons notre rôle fédérateur de ville-centre dans le respect de nos partenaires et de leurs besoins. Voilà ce que nous avons écrit il y a un an, et cette vision, pour moi, n'a pas changé. N'est-elle pas d'ailleurs la base d'un bon fonctionnement aussi bien municipal que communautaire ? Rôle fédérateur de la ville-centre, confiance réciproque, respect des partenaires, intérêt général, coût maîtrisé. Ça parle à tout le monde. Je dois dire, hélas, que ce n'est pas ce que nous avons découvert au niveau de l'agglo. Je ne polémiquerai pas, mais après 9 mois de participation à l'activité communautaire de mon mandat, je vous livre mon analyse à partir d'observations objectives que d'ailleurs chacun des élus communautaires ici et ailleurs ont pu faire. Je me limite au domaine financier qui fait l'objet de notre conseil de ce soir. Alors, quels sont aujourd'hui pour moi les mots identifiés de l'agglo, les mots MAUX ? Eh bien, nos craintes quant à la situation financière de l'agglo se sont vérifiées. Je ne m'y attarderai pas dans le détail, cela a été fait déjà longuement. Mais tous les indicateurs sont au rouge, notamment la hausse des dépenses de fonctionnement, la capacité d'autofinancement, l'endettement, l'investissement annulé pour longtemps. Ce qui est regrettable, je dois le dire, c'est le temps et l'énergie qu'il nous a fallu déployer pour obtenir le détail de tout cela, ainsi que la correction de multiples « erreurs » entre guillemets aux conséquences désastreuses. Qui plus est, et je rejoins M. Delettre, les causes invoquées sont toujours les mêmes. L'antériorité. Papa, si tu m'entends. Baisse des dotations. Multiplication des compétences. Et même mauvaise volonté des communes. Ce qui est quand même un comble. Et oui, mais les causes invoquées ne suffisent plus à masquer les causes réelles de ce trou colossal. Et voilà, une mauvaise gestion, une masse salariale non maîtrisée, des choix mal calibrés, des prises de compétences sans capacité réelle de les mettre en œuvre, etc. Je crois qu'il est temps de mettre des mots clairs et concrets sur cette réalité que nous avons découverte et qu'il est temps de changer de paradigme. Aujourd'hui, face à cette situation, notre avis est sollicité sur deux possibilités qui se profilent dans les prochaines orientations budgétaires de l'agglo. Une hausse conséquente de l'impôt, une baisse des attributions de compensation vers les communes. Je dois dire qu'en tant qu'élu de la ville de Guéret, le groupe Guéret en commun, nous ne pouvons nous satisfaire de ces solutions qui affaiblissent nos propres capacités budgétaires et vont peser lourdement sur le contribuable dans une période particulièrement difficile. En conséquence, nous examinerons les orientations budgétaires de l'agglo avec l'exigence première d'une étude et d'une présentation rigoureuse des économies qui peuvent être réalisées, de toutes les possibilités qui peuvent et doivent être mises en œuvre pour redresser l'agglo. Et je dois dire que nous espérons vivement que tous nos collègues délégués de toutes les communes membres sauront enfin ouvrir les yeux et faire preuve eux-mêmes de ce niveau d'exigence. En conséquence, donc aussi, nous exprimerons un avis négatif quant aux mesures et efforts demandés qui se profilent dans les orientations budgétaires de l'agglo. Je vous remercie.
Merci, Madame Bourdier. Monsieur Vernier.
Bien, merci beaucoup. Je vous avoue que je suis particulièrement mal à l'aise dans ce moment d'échange fait à charge en l'absence de personnes, je veux bien dire deux personnes avec un S à personne, qui pourraient peut-être amener des éléments au débat. Mais mon honnêteté intellectuelle, personnelle, me fait que je ne peux pas vous dire, ne pas vous dire ça. Alors je ne sais pas quelles sont les circonstances qui font qu'on n'a pas cette possibilité d'échange contradictoire. Je ne sais pas si elles ont été recherchées, je ne parle pas seulement du président. Je crois qu'il aurait été utile, vraiment, que des explications, que des choses puissent nous être apportées. Parce que quand il n'y a pas d'échange contradictoire, c'est une des interventions à charge qui se font. Moi, je ne cherche pas à dire ici, oui, elles existent, elles n'existent pas. Je veux juste, simplement, et je connais l'histoire de cette communauté de communes, puis de cette agglomération assez bien, et j'ai vu évoluer les choses, et je n'ai pas participé d'ailleurs au dernier exécutif. Et donc ma position sera celle de mon groupe, mais elle ne peut pas se faire comme cela sur des principes tant que je n'ai pas tous les éléments. Parce que peut-être que d'autres les ont plus que moi. Moi, je n'ai pas les moyens de juger correctement les choses. Et je veux ajouter quand même ce que personne ne dit là. Et il faut s'interroger là-dessus. Je le dis parce que je l'ai dénoncé. Le comptable public a régulièrement assisté aux réunions de l'agglomération et a régulièrement donné quitus à l'agglomération. Alors que même un compte administratif, je n'ai pas participé au vote, mais a été voté en déséquilibre, ce qui était, convenons-en, une première, peut-être une première d'ailleurs, ce vote se passait à Saint-Thierry-les-Bois, et je dois dire que j'ai vécu cette soirée comme une quelque chose d'assez étonnant que le comptable public donne quitus, mes chers collègues. Quand un comptable public donne quitus, il donne quitus à une gestion. Et ça a été fait. Je m'étonnais d'ailleurs d'avoir régulièrement, ce qui ne se fait pas à Guéret, ce que je n'avais jamais fait si. En général, on invite le comptable public au compte administratif. Et il vient, s'il peut venir. Venait d'ailleurs, en général, dans notre conseil municipal de Guéret, quand il venait. Mais je m'étonnais, et je lui avais dit d'ailleurs à ce comptable public, dont je tairai bien entendu le nom, je lui disais, c'est souvent que vous êtes là, vous, en tous les cas, c'était un petit peu étonnant. Donc ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond. Je veux redire ici que l'impôt reste et doit rester la marge de manœuvre des collectivités. Et que les priver de cet outil est non seulement dangereux, mais risque de les condamner à ne pas pouvoir faire. C'est aux collectivités de décider si elles n'augmentent ou pas le taux d'imposition. Nous avions, et même le baisse d'ailleurs, certaines, des communes riches, vous savez, dans ce pays, et nous n'avons jamais pu obtenir, politiquement, avec tous les gouvernements, aucune péréquation digne de ce nom qui fasse que ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent soient plus taxés que ceux qui en manquent. C'est comme ça. On vit dans un pays où, régulièrement, les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et oui, les collectivités qui sont en situation difficile, comme notre commune, pas critique là pour le coup, mais difficile, continuent à s'appauvrir alors que d'autres continuent tranquillement à ne même posent pas des questions de budget. Mes fonctions nationales me font rencontrer des maires qui ne se font aucun souci pour établir un budget, ni soutenir leur club, ni ce genre de choses, faire des piscines olympiques quand on a 14 000 habitants, ma chère Madame le maire, vous n'auriez pas ce souci-là si vous étiez maire de... Non, je ne vous dirai pas d'où. Mais vous ne poseriez pas la question pour le centre aquatique ou la piscine. Hein ? Ça serait d'ailleurs, nous-mêmes, nous l'aurions déjà refait, sans doute au bout de 30 ans, et non pas avoir attendu si longtemps dont nous savions que ça poserait... des difficultés que j'avais pris soin d'ailleurs de souligner dans mes déclarations à la communauté d'agglomération parce que je souhaitais qu'elles soient notées et qu'elles puissent être vérifiées. Donc, par rapport à ça, il y a le conseil municipal, le conseil communautaire, Madame le maire, le président. Mais il y a aussi des élus qui votent. Il y a aussi des élus qui votent. Et dans cette affaire, personne ne peut être exonéré, et moi non plus. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait ce que réclame M. Delettre, et il a raison, parce que lui, il arrive. Donc il a raison de dire ça. Il faut qu'on puisse comprendre ce qui a conduit. Moi, j'ai mes idées là-dessus. Et ce n'est pas faute d'eux, mais j'ai mes idées là-dessus. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, je me prononce ce soir avec mon groupe sur un principe. Nous n'avons pas pendant 7 ans cet exercice, vous pouvez tous le vérifier, décider et demander à nos services d'appliquer une règle qui était la règle du montant de la dépense, Thierry. C'est-à-dire que nous disions à nos services, vous leur demanderez, ils ne peuvent pas répondre en conseil, ils peuvent répondre après, on leur disait c'est 1,5%, point barre, débrouillez-vous. Ben, débrouillez-vous pour nous faire des propositions. Parce qu'ensuite, le choix politique, alors politique au sens noble du terme, n'ayez pas peur de parler un peu de politique, moi je suis surpris, on ne veut plus parler de politique. Ça existe la politique, il faut la respecter telle qu'elle est. Et les Français sont attachés à la politique. Ils ne sont pas attachés aux hommes et aux femmes politiques, peut-être, mais ils sont attachés pour savoir quelle politique sociale on mène, quelle politique culturelle on mène, quelle politique sportive on mène, quelle politique au niveau de la participation de la cité aux décisions qui sont prises. qui sont intéressés par ça et bougrement. Et bougrement. Donc, il y a... on ne peut pas avoir pendant 7 ans serré les boulons comme on l'a fait à la ville de Guéret. Et malgré ça, la situation ne s'est pas améliorée. Hein, parce que oui, les dotations continuaient à baisser, y compris parce qu'on a supprimé la taxe d'habitation et que sa compensation ne se fait pas à 100%, contrairement à ce qui est dit. Il suffit de vérifier les chiffres. Hein. Les chiffres, moi je disais toujours, j'étais à la commission des finances de l'Assemblée pendant 10 ans, je disais qu'il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire mentir, c'est les chiffres. Les chiffres, ils sont têtus. Ils sont là et ils vous le disent. Donc avoir fait cet effort pendant 7 ans pour dire, eh bien oui, d'accord, il n'y a qu'à augmenter l'impôt. Et puis on va sortir de ça. D'ailleurs, je crains bien que ceux qui siègent en notre nom, et quand je dis notre nom, habitants guérétois, payant mes impôts à Guéret. Je disais toujours un peu cher d'ailleurs, mais comme c'était mon équipe qui les votait avec moi, je ne pouvais pas trop m'apesantir là-dessus. Mais, c'est-à-dire, pouvoir donner un quitus d'augmentation d'impôts. Mais je sais comment ça va se terminer. Hein. Contraint ou forcé, je sais comment ça se terminera, parce que je sais comment ça s'est terminé ailleurs. Donc, moi, j'aimerais bien aussi qu'on puisse. Moi, je ne voterai pas le budget communautaire. Je serai attentif, comme je l'ai dit, attentif mais constructif au budget de la ville de Guéret, mais j'aimerais bien quand même qu'on ait des explications un peu plus... On nous avait dit le prochain conseil verra la présentation du projet. Bon, il y a toujours, on peut toujours trouver une date où tout le monde est là quand on veut la trouver. Même si c'est un samedi, même si c'est un dimanche, rien n'interdit à un conseil municipal de siéger les jours fériés, sauf à respecter, mon cher Thierry, les convictions religieuses des uns et des autres et de ne pas mettre un conseil. Il en faut un peu détendre parce que sinon, voilà. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, je ne suis pas très à l'aise dans cette affaire-là, sur la façon dont elle s'enclenche, j'ai compris, parce qu'il y a quand même eu des mots, les mots sont enregistrés. Hein. Reste, il y a quand même eu des mots très, très durs, de défiance, de demande de départ. C'est pas rien. Il faut les assumer. Je veux dire ça, parce que c'est très sérieux ce qui se passe ce soir. C'est pas... On n'en parle plus la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, oui, et j'arrête, hein, Marie-France, pardon, je suis un peu... vraiment, j'ai besoin qu'il y ait, mais pas avec une personne seule. J'ai besoin qu'il y ait des explications qui soient données, parce que moi, c'est l'histoire de la... Je termine là-dessus. L'histoire de la provision faite par rapport au terrain, pour faire simple, parce qu'en comptabilité, j'ai entendu ce que disait l'adjoint aux finances et j'ai compris ce qu'il a dit avec par habitude. Mais il faut dire juste que les terrains qui n'étaient pas vendus avaient une valeur qui a été intégrée. Mais il avait été précisé. Ils avaient été mis au budget qui n'était pas utilisable. C'était un équilibre budgétaire, mais c'était de la monnaie de singe. Pardon, je ne sais pas comment on l'appelle. Enfin, en tous les cas, il y avait un équilibre budgétaire lié à des actifs. Il n'y aurait pas dû y avoir de consommation de ces 3 millions qui n'étaient pas de l'argent sonnant trébuchant. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Alors après, sur les mutualisations... Je rappelle que mutualisation, ce n'est pas forcément dans une seule direction. J'ai répété ça pendant 10 ans. Ce n'est pas forcément toujours mutualisé vers la gauche. Ça peut être mutualisé vers la ville. Il y a des beaux services, des gens qui travaillent, des gens qui peuvent faire, des gens qui savent faire. On parlait de l'urbanisme. Moi, je me suis battu pour que l'urbanisme reste physiquement dans la mairie. Parce qu'ils vont où, les gens, les amis? Vous avez la responsabilité de cette ville. Et on sera à vos côtés. Vous croyez que les gens, ils vont à l'agglo? Croyez que le citoyen guérétois, il va à l'agglo? Non, il vient là. Il vient là. Donc on s'est battu, mutualisation, ça peut être ça. Voilà, je ne suis pas plus long. Donc, comme l'a dit Sylvie, l'a expliqué Sylvie, ça sera aussi ma position. Mais ça ne me satisfait pas, ce débat me laisse Je ne suis pas très à l'aise vraiment par rapport à ça, parce que oui, il y a toujours un chef, mais qui ne peut pas porter tout le poids des responsabilités tout seul.
Bien, Michel, je vais répondre brièvement. Je vais reprendre, si vous permettez, un petit peu le déroulé des faits qui ont qualifié, à mon sens, l'urgence des décisions à prendre et la difficulté d'avoir un débat contradictoire. D'abord, effectivement, M. Correa s'est excusé de son absence. Il m'a appelé donc mardi pour me dire que des raisons de santé l'empêchaient d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour reprendre le déroulé des choses, le 10 février, on a un mail de l'Aglo qui nous annonce une conférence des maires le 17 février. Le 17 février, 7 jours plus tard, pardon, avec en ordre du jour des échanges sur le futur centre aqualudique et sur l'éventuelle augmentation de la fiscalité foncière de 1 à 3 points. Tout le monde a fait le parallèle entre le centre aqualudique et le besoin de financement de ce centre aqualudique de 1 à 3 points. À cette conférence, d'ailleurs, des élus se sont réinterrogés récemment sur ce parallèle. À cette conférence, j'ai contesté l'augmentation des impôts liés à des projets non aboutis, le centre aqualudique et la gestion des eaux pluviales, sur laquelle on n'avait encore pas délibéré. Il y a des besoins en ressources humaines qu'évoquait le président, qui, à mon avis, méritaient d'être définis de façon collective. Conférence des maires, mercredi dernier, le 10 mars, durant laquelle il est demandé au maire une position formelle sur l'augmentation des taxes foncières. Augmentation liée, là, au déséquilibre du budget prévisionnel. C'est-à-dire qu'il y a un mois, on ne s'affole pas trop en disant l'augmentation des impôts est liée au centre aqualudique et à la gestion des eaux pluviales urbaines. On a le temps d'en discuter. Un mois plus tard, on vous dit non, non, non. Mais en fait, l'augmentation des impôts, ce n'est pas du tout pour ça. C'est pour combler le déficit de l'aglo. Et ça, c'était mercredi dernier. Donc quand on parle d'urgence, je veux bien qu'il y ait l'urgence de mes décisions, mais il y a aussi l'urgence de l'aglo qui pousse derrière. Donc moi, je demande ce jour-là, mercredi dernier, très clairement et de façon extrêmement ferme, des explications sur ce qui a conduit l'aglo à un tel déséquilibre. Parce que je me trouve face à une assemblée de maires qui prend acte d'un déficit de 3 600 000 euros, comme si c'était un fait établi, et qui commence à envisager des solutions à mettre derrière. Et je suis la seule à poser la question, mais d'où vient ce déficit? Comment est-il, s'est-il creusé? Je n'ai pas d'explication. Et je précise, à ce moment-là, mercredi dernier, que je souhaite réunir un conseil municipal qui est pour moi la seule instance habilitée à donner un avis sur un sujet de telle importance. Le 11 mars, le lendemain, jeudi dernier, un mail de l'aglo qui confirme le besoin de financement et la nécessité d'examiner immédiatement le levier fiscal. Quand on parle d'urgence et de débat contradictoire, il faut que ce soit dans les deux sens. Le 12 mars, donc, je convoque le conseil municipal pour aujourd'hui. J'ai évalué, me trouver en situation d'urgence. Les orientations budgétaires de l'aglo et son budget prévisionnel n'étaient pas prêts. Ils doivent être votés le 31 mars et le 15 avril. Ces budgets ont, je le rappelle aussi, un impact sur ceux de la ville de Guéret. Ce sentiment d'urgence, il a été renforcé par les éléments contenus dans les audits qu'on a réclamés pendant des mois. Ma dernière demande concernant cet audit date de début février. Elle a été relayée par M. Brunetti plus tard. On l'a eue mardi, il y a 3 jours, en fin d'après-midi. Exactement. Donc, mardi après-midi, en fin d'après-midi, on reçoit ces documents à analyser. Donc, moi, j'ai estimé qu'il était nécessaire d'en débattre et qu'il était indispensable d'en revenir à la démocratie qu'est le conseil municipal. La question de confiance, elle s'est posée tout au long de cette semaine et jusqu'au dernier moment, parce qu'effectivement, elle est importante. Donc, moi, je rappelle que j'ai demandé depuis le 7 février des documents et qu'on ne m'a donné qu'in extremis. Et encore, là aussi, on m'a forcé à traiter les choses dans l'urgence. Depuis le début, on dit que le président n'engage pas sa commune, ni les finances de sa commune, contrairement à nous tous ici. Prendre des décisions dispendieuses n'engage pas sa commune, Par contre, c'est le cas pour nous. Le choix que nous allons devoir faire nous engage tous. Le choix du président n'engage que lui. Donc moi, j'ai aucun état d'âme à parler avec vous ce soir de ce sujet. Je pense qu'il fallait en débattre. Nous avons des comptes à rendre à nos concitoyens. Et alors, n'oublions pas qu'on représente tous ici, ce soir, la ville de Guéret et rien que la ville de Guéret. Donc voilà pourquoi, même en l'absence de M. Correa, effectivement, j'aurais pu repousser le conseil municipal quand il m'a dit, en début de semaine, qu'il ne pouvait pas être là. Mais la notion d'urgence et le pressing qu'on met sur la ville de Guéret et sur les autres mairies, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est l'agglo. Voilà pourquoi j'ai maintenu ce conseil municipal et je souhaitais qu'on puisse en débattre rapidement. Et c'est ce qu'attend l'agglo aussi. Elle attend notre réponse claire et c'est tout ce qu'elle demande sur une augmentation de 4 points d'impôt. Donc voilà pourquoi effectivement... Non, mais ce débat contradictoire, je comprends. Je comprends. C'est logique. C'est légitime. De toute façon, notre position ne pourra que déboucher sur un débat contradictoire, je pense. Mais, Monsieur Vernier, le débat contradictoire, depuis 9 mois, on le sollicite à l'agglo. Donc, dont acte, et c'est pour ça que ce soir, je ne souhaite pas qu'on m'attribue un manque de... Voilà. D'accord. Monsieur Delettre, qui est-ce qui voulait parler ? Madame de Bonin Monsieur Delettre a le micro, bien, puis après oui. Madame de Bonin. Si
vous... J'entends bien et vous avez raison de le, enfin, tu as raison de le préciser, Michel. Mais on est tous gênés par cette absence de Monsieur Correa. Je voulais juste rappeler que lors du précédent conseil municipal, nous étions nombreux à avoir préparé un certain nombre de questions puisque nous devions débattre du rapport d'activité 2019. Et il me semble bien que M. Correa s'est défaussé, qu'il n'a pas souhaité répondre à ces questions. Voilà, je voulais juste le rappeler.
Madame Bonin.
Oui, sur la convocation de ce conseil municipal, nous ne pouvons évidemment que louer l'initiative. Qui est celle d'informer et de saisir l'ensemble des élus municipaux de sujets qui concernent l'agglomération, et notamment les travaux de la commission finances, puisque bien sûr dans cette assemblée, un certain nombre d'élus ne siègent pas à l'agglomération, et parmi ces élus, certains, dont je fais partie et notre groupe aussi, ne sont ni dans l'exécutif, ni à la commission finances, et donc ne sont pas au courant effectivement de ce qui s'y passe. D'ailleurs, j'étais même inquiet, je pensais que c'était un conseil en fait ordinaire au départ, avant de consulter l'ordre du jour. Je rejoindrai quand même la remarque de Michel Vernier sur l'absence de débat contradictoire, puisque effectivement les éléments que nous avons ce soir sont intéressants. Vous avez pu donner un certain nombre d'explications, mais restent des documents de travail. Et c'est vrai qu'une intervention alors du président, s'il avait été là, mais peut-être aussi du vice-président, aurait été intéressante. La position de notre groupe est assez simple. Pour ce soir, malheureusement, nous ne participerons pas au vote pour deux raisons. Donc la première, parce qu'en fait, nous attendons le débat d'orientation budgétaire qui a lieu à l'agglomération. Vous avez rappelé la date, Madame le maire, à l'instant.
31 mars.
Voilà, qui est du coup dans moins de 2 semaines et qui est le moment du débat contradictoire. Peut-être que d'ailleurs, on aurait sans doute préféré une séance du conseil municipal, peut-être juste après ce débat d'orientation budgétaire, ça aurait permis d'avoir l'ensemble des informations. Et donc, peut-être aussi, pour vous rassurer, nous prendrons nos responsabilités le moment venu. Il n'y a pas de souci pour notre groupe. Mais pour ce soir, nous ne participerons pas au vote pour cet élément-là. Et puis le deuxième, c'est qu'effectivement, j'ai le pouvoir d'Éric Correa et ça ne me paraît vraiment pas judicieux aussi pour ce point-là de participer au vote ce soir.
Bien sûr, on comprend parfaitement. Je redis juste que la demande d'une réunion des conseils municipaux nous vient de l'agglo. En conférence des maires, a demandé à chaque maire...
Je l'ai vu dans le corps du texte, je n'y avais pas prêté attention plus que ça. C'est vrai que le tempo me paraît... Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est vrai que sans doute après le DOB, ça aurait été plus judicieux.
Tout à fait. Madame Bourdier.
Dans la mesure où, dans l'ordre du jour, était... Donc prévu la discussion sur les points financiers, où j'ai donc déjà précisé la position de notre groupe. Pas de souci. Par contre, en ce qui concerne le point concernant la différence que vous souhaitez proposer au vote, je souhaiterais une courte interruption de séance afin d'en débattre au sein de mon groupe.
Très volontiers. Un quart d'heure, 10 minutes, c'est bon?
Même pas.
D'accord.
Rapidement. Merci.
Très bien. Un quart d'heure.